Messieurs, dames, bonsoir. Merci de nous recevoir pour cette édition de 17h à travers les ondes de nos 47 radios partenaires. Nous sommes vendredi 12 novembre 2021 et vous êtes en compagnie de Rukayat Abdrahman. À la une de cette édition, les autorités académiques de Ballayara appellent les déplacés de Bani Bangou à inscrire leurs enfants à l'école, à suivre le directeur de l'enseignement primaire dans ce journal. 13 enfants brûlés survivants de l'incendie de leur école à Maradi sont pris en charge à l'hôpital régional. 8 autres qui sont dans un état critique sont pris en charge au service des urgences. Les détails avec le médecin chirurgien. En partie magazine de cette édition, on parlera du projet Garci Sahel qui a formé environ 1800 gendarmes au Niger dans sa mission de soutenir la sécurité des pays du Sahel. Dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'équipe nationale de football du Niger, le MENA, a fait un match nul avec les étalons du Burkina Faso, un but partout au Maroc il y a quelques heures. La dernière journée opposera le Mali à l'équipe de Djibouti le 16 novembre à Niamey. Des hommes armés non identifiés sur des motos ont fait irruption hier soir dans le village de Ouredjeladjo, département de Saï, région de Tillabéri. Selon des sources locales contactées ce matin par le studio Kalangou, après quelques heures de prêche en langue, les assaillants ont mis le feu au bureau du directeur du collège, au domicile du directeur de l'école primaire et à une classe. Ensuite, ils ont incendié la cantine scolaire et saccagé certains bureaux de la mairie avant de se diriger vers la frontière du Burkina Faso. Selon toujours les mêmes sources, on ne déplore aucune perte en vie humaine ni de blessés. Une centaine d'enfants des déplacés de Bani Bangou sont inscrits dans plusieurs écoles du département de Ballayara où ils sont arrivés avec leurs parents fuyant les attaques des groupes armés non identifiés. Les autorités académiques invitent les parents d'élèves à inscrire ces enfants à l'école. Idi Labo, chef de l'inspection communale de l'enseignement primaire de Ballayara, est au micro de Hassan Moumouni.
D'entrée de jeu, quand l'autorité nous a saisis par rapport à cette affaire, les enfants étaient déplacés. Nous avons dit que c'est un droit pour tout enfant d'être à l'école. Donc j'ai appelé mes collaborateurs, les conseillers et les différents directeurs de l'inspection de Ballayara. J'ai dit partout où il se trouve que les parents amènent des enfants, que ce soit ici ou ailleurs dans le département de Ballayara, qu'on les accepte parce que c'est un droit. On les a recensés dans environ 10 écoles de la ville. Et peut-être les parents hésitent un peu à les amener tous. Sinon, nous n'avons eu à peine une centaine d'enfants dans les 10 écoles. Si vraiment nous avons accepté de les accueillir, donc nous souhaitons quand même, puisque c'est un droit pour chaque enfant d'être scolarisé, qu'il arrive à amener massivement les enfants, qu'il les suive de près et pour qu'ils n'abandonnent pas.
13 enfants brûlés survivants de l'incendie de leur école mardi sont actuellement pris en charge à l'hôpital régional de Maradi. Parmi ces enfants, certains blessés légers sont rentrés chez eux pour suivre le traitement en ambulatoire. Pour Dr Diko Daouda, chirurgien et médecin traitant des blessés, 8 autres enfants dont le pronostic vital est engagé sont encore en urgence. Il est au micro de Mohamed Mama.
Il y en a qui ont des brûlures qui sont sortables. Aujourd'hui ou demain, on va sortir certains d'entre eux. C'est mieux d'être à la maison que d'être à l'hôpital pour attraper d'autres infections. Donc lorsque l'état du patient permet de les traiter en ambulatoire, nous allons les laisser partir. Certains d'entre eux qui sont au niveau de la section sont dans un état acceptable. Donc ceux-ci-là, nous allons les décharger et nous allons continuer à prendre soin de ceux qui sont graves jusqu'à leur rétablissement prompt. Vous avez vu au niveau de la salle des urgences, il y a 8 qui sont dans un état grave. On a trié, on a fait 2 salles. Vous voyez de l'autre côté, il y a une salle où il y a 5. Au début, ils étaient 7. 2 sont sortis. Ils sont au total 13 aujourd'hui. Parmi les 5 qui sont en section, 2 peuvent sortir aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, il va rester 3. Et même parmi ceux qui sont aux urgences chirurgicales, il y a 2 autres qu'on peut transférer en section qui vont plus ou moins bien.
La directrice de l'école primaire AFN 2 et 3, les enseignantes et le gardien sont depuis hier interpellés à la police dans cette affaire de l'incendie qui a fait 39 victimes. La mairie de Dan Issa, région de Maradi, est en train de prendre toutes les mesures légales pour mettre en exécution la décision gouvernementale de fermer le site aurifère artisanal après l'effondrement de 30 puits selon le maire de la commune. Pour Adamou Guéraou, l'installation du site a permis à la mairie de réaliser d'importants chantiers, mais également aux jeunes d'être actifs. Il est interrogé au téléphone par Mohamed Mama.
On est en train de préparer l'arrêté pour faire dévertir les gens. Maintenant, déjà, les gens sont informés de la fermeture du site. Il y a plus d'activité à ceux qui ont commencé à quitter. Oui, c'est vrai, la mairie profite beaucoup de ceci, cela. Avec ça, nous avons pu réaliser beaucoup de choses. Hein. On a acheté beaucoup de terrains qu'on a mis en location aux départs, là, qui implantaient leurs machines. Nous avons réalisé des études géologiques pour faire des forages des 15 villages. Et les gens, ils sont là en train d'attendre. Jusqu'à présent, les gens pensent que les mesures qu'on a prises là, c'est pour réorganiser le site et que ça n'inquiète pas assez les gens. Je garde l'espoir que le site peut être ouvert parce qu'à travers le site, là, beaucoup de jeunes qui ont trouvé des préoccupations, qui ont trouvé des emplois. Mais nous sommes conscients que c'est un site qui est désorganisé et qu'il fallait le réorganiser.
Cette année, la production des dattes dans la commune de Dirkou, région d'Agadez, est faible selon le maire adjoint. En temps de grosse production, la filière dattes manque de débouchés, a poursuivi le maire adjoint de cette commune, Dr Sandamalan, est au micro de Abari Abagana.
Nous avons constaté que ceux qui ont produit ou reçu récolté 9 sacs de dattes n'ont eu que 3 cette année. Donc cela suppose justement qu'il y a une situation un peu sécurité alimentaire catastrophique. Les dattes ne sont pas vendues, tout reste dans les magasins des producteurs. Les dattes du Kawar ne partent pas vers Difa, parce que c'est dans cette zone que les dattes sont toujours écoulées. Avec la crise de Boko Haram, le circuit a été totalement coupé. La deuxième zone de forte consommation, c'est la zone de Belbeji, entre Zender et Maradi. Et là même, il y a les dattes algériennes qui viennent en concurrence, mais aussi la population qui a changé d'habitude alimentaire. Aujourd'hui, les producteurs de dattes n'arrivent plus à écouler. Nous avons aussi profité du passage du ministre pour que l'État prenne des mesures tendant à racheter les dattes pour l'alimentation des bétail, mais aussi pour distribuer à la population du site qui en a besoin.
La mairie centrale de Niamey procède depuis quelques jours à la fermeture de certaines boutiques dans la ville. Pour les responsables municipaux, c'est une opération de recouvrement des taxes municipales. Abdoulaye Mahamad Abdoul Malik, receveur à la ville de Niamey, explique les différentes sortes de taxes et le mécanisme utilisé pour leur recouvrement. Il est au micro de Rafika Taher.
La taxe qu'on appelle communément la taxe de marché, ou la taxe sur les ventes sur trottoirs autres que le marché ou sur les marchés aménagé ou non. Là, pour ces catégories de taxes, on ne ferme pas parce que c'est au jour le jour. Quand vous ne sortez pas, vous n'êtes pas redevable. Demain, on ne va pas vous rappeler le fait que la veille, vous n'avez pas payé. Mais pour l'occupation du domaine, en début d'année, que ce soit l'occupation du domaine ou la publicité extérieure ou les débits de boissons ou la taxe sur les pompes d'hydrocarbures, toutes ces catégories de taxes, on émet des avis d'imposition en début d'année avec leur date d'exigibilité. Et dès lors qu'on est dans la date d'exigibilité, quand vous ne payez pas, ça veut dire que le mécanisme est là normalement par lequel on doit pouvoir vous amener à payer. Les fermetures que vous êtes en train de constater, c'est par rapport à ceux qui, jusqu'à cette date-là, n'ont pas payé la taxe sur l'occupation du domaine public.
La ville de Gaya s'est désormais dotée d'une usine laitière moderne pour la transformation du lait naturel. C'est une œuvre du gouvernement nigérien avec le projet d'appui au développement de l'élevage Pradel. Avec cette laiterie, la ville nourrit l'ambition d'exporter le lait et ses sous-produits à l'extérieur. Mama Rabiou Ila, le directeur départemental de l'élevage de Gaya, explique au micro de Fadel Alou.
Gaya a eu cette chance d'avoir une laiterie digne de ce nom. Et à l'heure où je vous parle, tous les équipements et toutes les installations sont en place. Et le lait naturel des vaches en quantité sera transformé en divers sous-produits du lait. Comme le yaourt, le lait pasteurisé, le beurre et bien d'autres sous-produits du lait. Nous voudrions à ce que nos sous-produits issus de Gaya soient portés très loin de nos frontières et qu'ils soient très bien prisés. La laiterie de Gaya a une capacité moyenne de 2500 litres jour. Si on pouvait avoir plus que ça, la laiterie allait tout engranger. Autour de tout ce que je suis en train de vous dire, il y a même un business qui va se faire. Chacun va trouver son compte.
Munkaila Halidou, secrétaire général du syndicat des contractuels de l'enseignement et le nouveau secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail CNT, selon l'intéressé contacté ce matin par le studio Kalangou. Il succède à Maman Sako, qui a dirigé pendant 16 ans la centrale syndicale à l'issue du 5e congrès ordinaire de la CNT tenu cette semaine à Niamey. Studio Kalangou. Et puis la partie magazine de cette édition, le projet GARSI Sahel, groupe d'action rapide de surveillance et intervention au Sahel, est un projet qui a démarré ses activités en mars 2017. L'un de ses objectifs est de soutenir la sécurité des pays du Sahel avec des unités policières spécialisées et améliorer le développement économique durable de la région. Selon son directeur général, le projet a formé environ 1800 gendarmes qui seront tous opérationnels d'ici fin 2021. Le général de division Francisco Espinoza, directeur général du GARSI Sahel, au micro de Tarnan Foudé Ahmed.
Le projet GARSI Sahel, c'est un projet de l'Union européenne dirigé par la Garde civile espagnole en partenariat avec la gendarmerie française, carabinieri italienne et aussi la Garde nationale républicaine du Portugal. On a démarré le projet le 1er mars 2017. Le but de ce projet, c'est la création des unités spécialisées au sein des gendarmeries du pays du G5 Sahel plus le Sénégal et de doter des capacités qui les font des unités polyvalentes, très performantes, très bien équipées et très bien formées et que sont déployés par tous les territoires du G5 Sahel, depuis la Mauritanie jusqu'à le Tchad. Et on a formé presque 1800 gendarmes qui seront tous opérationnels à la fin de cette année 2021. Et tous les pays sont très intéressés.
À part l'appui à la gendarmerie, est-ce que le projet GARSI appuie ou bien soutient les populations locales?
Bien sûr. Et la gendarmerie, elle a toujours une vocation de s'approcher de la population. Et notre vocation, c'est toujours soutenir la population locale dans tous les efforts pour améliorer la sécurité pour qu'ils puissent regagner la maison et qu'ils puissent se développer en sécurité et faire sa vie. L'objectif final du projet GARSI, c'est améliorer le développement économique durable de la région en respect à droits humains et la égalité de genre.
Nous avons rencontré les éléments de la GARSI dans la zone de Avala et ce sont des éléments très appréciés par les populations locales vu le travail qu'ils ont fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire le travail que GARSI est en train de faire a-t-elle les résultats escomptés?
Les GARSI, c'est des unités très performantes dans tous les pays où elles ont été développées. Vous venez de constater les missions qu'ils développent en Avala, ils ont subi une attaque très importante dont 5 gendarmes ont été tués. Mais si vous allez dans tous les pays du Sahel, les villes où les GARSI s'est développé, je pense que vous aurez un témoignage de la population qui sont très satisfaits des boulots de l'unité et aussi qui soient placés à côté d'eux.
Quel est votre appel à l'endroit de la population locale?
À la population locale, simplement, je les demande de faire confiance à leurs forces de défense et sécurité, notamment la gendarmerie et dans la gendarmerie les unités GARSI qui sont spécialement formées pour le respect à droits de l'homme, que la population peut s'approcher des unités GARSI en sachant qu'ils vont avoir tous les soutiens qu'ils besoin.
Se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez à 18h15 le forum de la presse avec Fatih Zakari, mais bien avant, le journal en tamashek avec Alita Jissir. Très bonne suite de réception.
Bonsoir, grande sœur. Enfin, aujourd'hui, je me suis décidée à venir te rendre visite au bureau.
Ah, Nafissa, tu sais, tu es toujours la bienvenue dans mon bureau.
Je sais, de toute façon, je suis ta petite sœur préférée, ou bien...
Toi-même, tu sais, non? Est-ce que j'ai besoin de le dire?
Mais, attends, grande sœur, apparemment, vous ne blaguez pas ici avec les mesures de prévention contre la COVID-19.
Ah, mais oui, avec cette deuxième vague, nous devons donner le bel exemple au peuple.
Je comprends alors. Tout à l'heure, le vigile à la porte ne voulait pas nous laisser entrer dans le bâtiment sans bavette et sans avoir lavé nos mains. Heureusement qu'on avait nos bavettes dans nos sacs. On les a enfilées et on a lavé nos mains. Et me voilà dans ton bureau.
Tu vois, cette deuxième vague qui a encore repris, c'est à cause des comportements de négligence comme les tiens. Tu dois être responsable, je te le répète toujours. À chaque fois que tu dois te retrouver dans un endroit avec le monde, porte toujours ton masque. Il ne faudra pas laisser la négligence prendre le dessus. Soyons responsables, protégeons-nous et protégeons les autres.
Tu as tout à fait raison, grande sœur. Merci beaucoup pour ces conseils.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.